Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
La première dans Matthieu, chapitre 27, verset 3. Alors Judas, qu'il l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché ». En livrant le sang innocent, ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Deuxième lecture, je vous ai dit, on va la faire dans Luc, chapitre 22, verset 54. Autre façon de considérer la Pâque. Alors Luc 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux, une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ». Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui ». Car il est galiléen. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers... Cette considération de Pâques, et j'aimerais faire ressortir quelques éléments pour susciter finalement au fond de notre cœur la vraie valeur de la foi. Nous avons deux personnages, on va en parler, peut-être que je n'aurai pas le temps d'aborder tout, mais toujours est-il qu'on va se concentrer sur tous les cas la première lecture. C'est la Pâque. Et dans l'équipe des 12, Judas et Pierre ont quelque chose en commun. C'est ce que nous allons découvrir. Tous les deux ont caressé un rêve. Eh oui, qui ne rêve pas? On a tous des rêves. Et des rêves que l'on pourrait peut-être qualifier de spirituels ou de pieux. Tous les deux, plus particulièrement, attendent l'intronisation glorieuse du Messie. Et ils y croient, et ils y croient fermement, et ils sont sûrs que c'est Jésus. Ils n'ont pas été choisis pour rien, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont contemplé des choses merveilleuses et ineffables. Mais voilà, l'arrestation brutale de Jésus va mettre fin à leurs espérances idéalistes. Et je voudrais dire tout de suite qu'un chrétien, ce n'est pas un idéaliste. C'est un homme qui a les pieds sur la terre, un réaliste, et je vais vous expliquer pourquoi. Jésus arrêté et lié, Eh bien, cette situation va plonger tout simplement les deux hommes dans la douleur. Ils avaient espéré beaucoup, et puis finalement les choses vont se passer autrement. Ils sont un petit peu à l'image, quelques jours plus tard, de ces disciples d'Emmaüs qui reviennent la mort dans l'âme, en disant ben, « ils l'ont crucifié notre Sauveur, ils l'ont crucifié notre Seigneur ». Le premier entendait par là Judas, à la douleur de la trahison, et le second, Pierre, celle du reniement. Quand l'un et l'autre a vu le maître ou leur maître ligoté et sans aucune résistance, Judas est allé se pendre de désespoir et Pierre a pleuré de honte. Voilà un petit peu le résumé de nos deux lectures. Maintenant, j'aimerais aborder une situation qui, je l'ai dit tout à l'heure, nous pousse à la réflexion sur l'authenticité de notre engagement vis-à-vis de Jésus et pourquoi nous suivons le Seigneur. Alors écoutez bien, ce n'est pas compliqué, mais il y a quand même des choses qui sont importantes à dire et à marquer dans notre réflexion. On va commencer, si vous voulez bien, par Judas. Le grand problème de celui-ci, de Judas, était que ses relations avec Jésus, eh bien, Judas n'y voyait que la religion qui rapporte. Je mesure bien mes paroles. L'engagement est la religion qui nous rapporte quelque chose. Et ces paroles mêmes, les paroles mêmes de Judas en sont la preuve, parce que vous connaissez ce texte, au prêtre, lorsqu'il va vers le temple, et lorsqu'il vend son maître, il leur dit bien ces propos, il leur tient ces propos, « Que voulez-vous me donner et je vous le livre ?»« Que voulez-vous me donner et je vous le livre ?» On est là en plein cœur d'une transaction, en quelque sorte. Tu me donnes, alors à ce moment-là, eh bien moi je vais vous livrer Jésus. C'est quelque chose d'assez abominable, parce qu'on connaît la suite. Et c'est un témoignage que la parole de Dieu nous laisse et qui met en lumière un comportement effarant, nous pourrions dire plus que troublant. D'abord, Judas est un personnage particulier, il faut le dire, et je ne ferai que rapporter finalement ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de le blanchir et ce n'est pas la peine de le noircir, restons sur les textes. D'abord, il y a l'indélicatesse de Judas. Dans Jean chapitre 12, il nous est levé un coin du voile du fond du cœur de cet homme. Il nous est dit qu'il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Alors, on pourrait dire qu'il était finalement chargé d'une responsabilité et qu'au lieu de gérer le bien commun, eh bien, quelquefois, quand il avait besoin, il prenait un petit peu de la monnaie. Il prenait ce dont il avait besoin et ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que personne ne l'avait vu, personne s'en était aperçu. Mais Jésus le savait. Et après coup, les choses ont été mises en lumière naturellement. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne Judas, le mystère planera toujours. Vous savez que dans l'histoire du christianisme, Judas c'est un personnage qui est quand même assez atypique, assez particulier. Et quand aujourd'hui on reprend ce triste personnage... Quand on dit que quelqu'un est un Judas, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein ? En fallait-il un ? Alors le mystère plane. Comment un homme choisi par Jésus, un homme qui a été averti, un homme eh bien, qui a vu des choses extraordinaires, qui a suivi Jésus pendant toute cette période que nous rapporte l'Évangile, comment un homme a-t-il pu commettre cette épouvantable trahison ? Ça reste véritablement énigmatique. Alors il faut bien admettre, et ça nous amène à une autre réflexion, il faut bien admettre que même en dépit d'un appel personnel, de Dieu, un homme peut bien commencer et mal finir. Ça c'est une vérité. Et c'est triste. C'est terrible. Parce que il n'y a pas que le cas de Judas. Je pense spontanément au roi Saül, qui avait bien commencé et qui a mal fini. Je pense à Salomon, qui avait bien commencé et qui a mal fini. Et puis, que dire encore de Démas, de Diotrephe, et des uns et des autres. Ils sont, malheureusement, c'est une grande tristesse, légion. Mais leur nom figure dans la parole de Dieu pour que non pas en suivant leur exemple, mais en tenant compte de ce qu'il y avait au fond de leur cœur, nous ne suivions pas leurs traces. Nous sommes avertis que si nos instincts mauvais prennent le dessus, ils nous seront fatals. Il n'y a rien à faire, frères et sœurs. Ça, c'est une chose que la Bible nous donne et nous avertit, qu'à partir du moment où on laisse les choses aller, les choses courir, eh bien, tôt ou tard, ils risquent de nous emporter. Les défauts secrets de Judas, qui, hélas, entretenu et caressé, ont fini par avoir raison de lui. Moi, je crois sincèrement que Dieu et que Jésus voulaient sauver Judas. Mais vous allez me dire, oui, les prophéties, et puis l'histoire est déjà écrite. D'accord, mais quand même. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Judas. On a parlé de sa cupidité, vous savez, cet amour immodéré de l'argent. Et ça, c'est un danger pour le monde d'aujourd'hui, pour les chrétiens d'aujourd'hui. La cupidité, l'amour immodéré pour l'argent. La soif de puissance, c'est ce que nous voyons autour de nous. Le monde vante la puissance, la réussite, la promotion, et ceci et cela. La reconnaissance d'être un homme important, d'être vu, d'être acclamé, d'être applaudi, d'être là dans les étoiles. Ça, c'était le problème de Judas. Et son erreur, c'est qu'il comptait sur Jésus et son influence pour y parvenir. Et c'est pour cela que, eh bien, finalement, il marchait avec Jésus. Il se dit, mais avec un homme comme Jésus, mais je vais y parvenir, je vais réussir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un grand danger de suivre Jésus et de faire vocation de la religion qui nous rapporte quelque chose. C'est un grand danger. On n'en parle pas assez. On ne le lit pas assez. Et que de chutes dans le monde chrétien, que de chutes dans l'Église, que de chutes dans nos églises. Parce qu'il y a là des choses qui n'ont pas été négociées, des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui n'ont pas été là vidées de notre cœur. Et son erreur, c'est qu'il s'est dit, moi, en suivant Jésus, eh bien, j'y arriverai par ce moyen. Je dirais que Judas est en ce sens le type même de ceux et de celles qui suivent Jésus pour réaliser leur ambition. Ce n'est pas mes ambitions, c'est les ambitions du Seigneur qui prévalent. Et à partir du moment où on se faufile, on prend un petit peu le courant derrière le Seigneur en disant « Mais je ferai ceci, je ferai cela ». En se couvrant de la religion, ou de la foi, ou de la vie spirituelle, eh bien, c'est peut-être notre première pierre d'achoppement. Vous allez comprendre. S'engager dans un service, avoir des responsabilités confiées, comme Jésus les avait confiées à Judas, eh bien, tout cela l'a desservi, Judas. Ça n'a pas été son avantage, ça a été son désavantage, et Jésus savait, bien sûr. Mais à travers un service et à travers une responsabilité, Dieu peut aussi nous transformer. Ce n'est pas mortel, mais ça peut devenir mortel. Ce n'est pas le choix de Dieu qui est en cause, c'est le choix que je fais des choses, et l'utilisation des choses, et la manière dont je les conçois, l'ambition que j'y mets. C'est ça la grande différence. Car il n'y a rien, permettez-moi de le dire, de plus faux que de faire de la foi une source d'avantages personnels et d'intérêts. Que le Seigneur nous en garde de dire « je suis ceci ou je suis cela » et de pouvoir profiter d'une situation spirituelle qui nous ramène à nous-mêmes et non pas à la gloire de Dieu, non pas au service réel du salut des âmes, mais une glorification personnelle, d'avoir un nom sur une carte de visite, d'avoir un titre, d'avoir une position, une fonction. C'est à la fois un honneur, mais c'est aussi un grand danger. Judas était tout à fait à l'opposé de l'esprit évangélique qui dit ceci, et je le rappelle, renoncez à vous-même. Chargez-vous de votre croix. Celui qui voudra gagner perdra. Vous connaissez, et nous connaissons ces paroles. Et pourtant, je crois que notre Judas s'est donné avec beaucoup de zèle. parce qu'il espérait tirer profit du règne messianique, en se disant de cette réflexion que je traduis de cette manière, comment ne serait-on pas riche, connu et reconnu quand on est destiné à monter sur un trône pour juger Israël? Vous vous souvenez de cette parole quelque temps auparavant, quand Jésus avait dit aux 12 : quand j'arriverai dans mon règne, eh bien je vous ferai asseoir sur des trônes dans le ciel et vous jugerez Israël. Et Judas, lui, il s'était dit, ben, c'est exactement ce que je cherche, si je peux être le premier. Vous avez vu la rivalité qu'il y avait entre les disciples, Jacques et Jean, à un moment donné, qui viennent vers Jésus, qui lui tirent la manche et qui lui disent, secondés par leur mère, en disant, tu sais, nous aimerions bien avoir la première et la deuxième place, un à droite et l'autre à gauche. Maintenant, il fallait savoir celui qui est très à gauche et l'autre à droite. C'était encore un autre problème. Ça mit les autres furieux. Ah, ça a été quelque chose, il nous a dit qu'ils ont été irrités. Il aurait pu les mettre en pièces, il les aurait mis en pièces. Jésus a dit, arrêtez. Celui qui veut être grand au milieu de vous, qu'il soit le plus petit. Et qu'il soit serviteur de tous. Eh oui, c'est pourtant la réalité. Et réalité que quelquefois nous ne mesurons pas toujours. La dimension et l'importance est là où ça peut nous conduire. Parce que Jésus avait parlé au sens spirituel. Vous régnerez, bien sûr. Vous savez que nous allons régner. Mais pas ici-bas. Eh oui, de l'autre côté, quand nous serons débarrassés de notre péché, quand nous serons débarrassés de notre dépouille mortelle, quand nous serons débarrassés de tout ce qu'il y a au fond de notre cœur et qui s'appelle tout simplement l'humanité. Mais pas avant. Pas avant. Donc Jésus avait parlé au sens spirituel et Judas l'avait entendu autrement. Il s'est dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, peut-être que, vous savez, quand l'évangile marche bien, quand il y a des foules qui viennent, qui entendent, c'est quelque chose d'enthousiasmant, c'est quelque chose qui est émoustillant. Vous vous rendez compte? Alors nous, dans notre pays, on ne craint pas de se prendre la tête parce que c'est pas aussi facile que cela. Peut-être que Dieu veut nous préserver aussi. Et s'il y a des miracles, s'il y a des choses extraordinaires qui se passent, elles se font. Mais Dieu ne va pas trop nous les montrer, parce que vous savez, c'est trop facile de dire finalement c'est moi, c'est à cause de moi, vous vous rendez compte? S'il y a des dizaines de personnes qui se sont converties, s'il y a des miracles, mais Dieu a besoin de moi. Vous voyez, Dieu a besoin de nous. C'est tout simplement un effet de sa grâce, il se sert de nous, tout simplement. Alors avec le drame de Pâques qui approche, Judas a fini par le comprendre, que finalement il avait fait fausse route, un faux raisonnement, une conception qui n'était pas la bonne. Mais au lieu de reconnaître son erreur, il va s'irriter sourdement contre Jésus. Il ne va rien dire, mais il va garder à l'intérieur. Et à chaque regard qu'il portera vers Jésus en disant « Mais comment se fait-il qu'il ne m'ait pas vu, qu'il ne m'ait pas donné plus, qu'il n'ait pas fait ceci avec moi, qu'il n'ait pas fait cela, c'est toujours Pierre, c'est toujours Jean, c'est toujours Jacques. Ceux qui montent sur la montagne, c'est toujours eux. » Vous savez comment ça s'appelle ça? De la jalousie et de l'envie. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est la carie des os, nous dit le livre des Proverbes. On me disait il y a quelque temps qu'il y avait une chrétienne dans une église qui en voulait terriblement à un responsable. Et finalement, elle ne pouvait même plus le saluer, plus le voir, plus pouvoir faire quoi que ce soit. Parce qu'elle avait laissé dans son cœur des choses pénétrer. Elle avait entendu des choses. Elle avait recueilli toutes sortes de choses qui l'avaient complètement empoisonnée, complètement dénaturée. Et cette personne, cette chrétienne, en était arrivée à s'en prendre sourdement. Jusqu'au jour où il y a naturellement une explosion, un abcès qui craque, qui perce. Mais c'est terrible cela. Parce que la vie s'arrête à ce moment-là quand on a de la haine, quand on a du ressentiment dans son cœur, on ne peut plus vivre. Et pourtant, Jésus nous dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parce qu'à ce moment-là, s'il n'est pas capable d'aimer, eh bien, il fait Dieu menteur. Et quelle est la valeur de sa foi? Vous savez, le diable, il veut nous rafler, nous faucher pour mettre des mauvais sentiments dans notre cœur, comme Judas. Si c'est d'arriver à Judas, ça va en arriver à d'autres. Alors, ne laissons pas l'irritation, la colère, le ressentiment, s'installer sourdement contre nous et quelquefois contre le Seigneur. Et je crois que Judas en voulait vraiment à Jésus de l'avoir trompé. Mais non, c'était pas Judas qui l'avait trompé, c'était lui qui s'était trompé lui-même. Alors ça, c'est un reversement de la situation. Néanmoins, Judas va quand même rester avec Jésus. Il aurait pu prendre la fuite et puis dire « Maintenant, moi, je te laisse tomber, c'est terminé. » Il reste pour plusieurs raisons, parce qu'il se dit que si la bourse a ses petits bénéfices, vous comprenez ce que nous avons dit tout à l'heure, pourquoi courir le risque de se séparer d'un homme dont la puissance, et il le sait pertinemment, est surnaturelle? Alors il reste encore avec Jésus. Il n'est pas bien avec Jésus, il ne se sent pas bien dans la présence de Jésus, son cœur est en pleine ébullition, il est en train de penser des choses qui sont terribles, mais il reste parce qu'il sait que Jésus quand même il est loin de Dieu, parce qu'il est le Messie, parce que sa puissance est une puissance surnaturelle. Alors il se dit « je reste encore ». Vous savez, permettez-moi de le dire, quand on n'est vraiment pas bien, quand on n'est pas bien du tout, quand on a du ressentiment dans son cœur, vaut mieux prendre un peu d'écart. Ça vaut mieux. Parce que si nous ne voulons pas prendre d'écart, c'est Dieu qui va nous faire prendre de l'écart à un moment ou à un autre. Il vaut mieux se retirer, prendre un petit peu de champ, se mettre un petit peu de côté, se refaire un petit peu notre vie spirituelle devant Dieu, nous tenir devant le Seigneur, mais pas d'attendre la catastrophe, parce qu'elle arrivera tôt ou tard. Le cœur d'un enfant de Dieu doit être pur. Il doit être bon. Il doit être saint, enfin. C'est ce que le Seigneur veut, en tous les cas. Ça doit être un cœur de paix, un cœur paisible. Mais quand il y a ce bouillonnement à l'intérieur comme Judas et qui ne dit rien mais qui reste quand même et qui l'a... C'est terrible cela. C'est terrible parce qu'il ne peut faire rien de bon, il ne peut repenser à rien de bon. Et puis, en deuxième lieu, il y a peut-être plus de sécurité afin d'être l'ami de Jésus. Ouais. Paul parlera en pleurant et il écrira... Il parlera de certains, il dira « ce sont des ennemis de la croix ». Vous vous rendez compte le terme, la force de ce terme ?« Ennemis de la croix ». Et pourtant, c'était des gens qui étaient dans l'église de Corinthe. « Ennemis de la croix ». En fait, Judas a un dernier espoir, et c'est ce qu'il fait rester, je l'explique. Un dernier espoir qui le retient, c'est que Jésus, et il se le dit mentalement, mais comme il est parti sur un faux raisonnement, jusqu'au bout, ça sera faux. Et il se dit dans sa tête que finalement, quand Jésus sera acculé aux circonstances, quand il sera pris, quand il sera devant le tribunal, quand il sera devant la croix, quand on lui chargera la croix, alors à ce moment-là, probablement au dernier moment, il se manifestera miraculeusement comme le Messie, et particulièrement à la fête de Pâques, et forcément, il montrera qu'il est le sauveur du monde, et que par le même coup, eh bien, il intronisera ses disciples. Vous vous rendez compte le raisonnement? Le but de Judas, c'était pas ce qui allait se passer, c'était la finalité des choses en disant « Mais il va se montrer, Jésus. On l'a vu ressusciter des morts. On l'a vu faire des choses extraordinaires. Alors il ne va quand même pas se laisser crucifier sans rien dire. » Et ça, c'est ce qui le maintient encore jusqu'au dernier moment. Allons jusqu'au bout pour voir comment ça va se passer. Permettez-moi d'ajouter ceci. C'est que Judas a tout d'un opportuniste. Vous savez ce que c'est qu'un opportuniste ? Vous devinez le sens du mot. Quand on parle de quelqu'un qui est un opportuniste, eh bien Judas en est un. Nous avons vraiment besoin de nous assurer des mobiles de notre foi. Et nous avons besoin que nous soyons, nous avons besoin d'être, pardon, honnêtes pour ne jamais finir comme Judas. Ouais. L'honnêteté, mes frères et sœurs, la droiture de cœur, l'intégrité d'esprit. Alors, bien sûr, on est tous des hommes. On a tous des tentations. On a tous des bouillonnements dans notre cœur. On a tous des pressions, des stimuli, des appétits. Enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne veux quand même pas vider le dictionnaire. Mais tout ce qui est humain et naturel, on le sait. Et c'est bien pour ça que le Seigneur nous a pris. Il ne nous a pas pris parce que nous étions des saints. Il nous a pris parce que nous étions des pécheurs. Mais qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là? Est-ce que nous devons laisser les choses aller comme cela? Il y a une chose qui véritablement permettra à Dieu de nous secourir dans notre misère, parce qu'il nous aime. C'est dans la mesure où nous serons droits et honnêtes. avec un cœur qui aime la vérité dans un esprit de vérité. Pas autrement, c'est pas possible. Alors, Judas va finir dans une amère déception annonceratrice de la tragédie qui va être la sienne. Le service dans l'Église, l'engagement que nous prenons et la responsabilité qui font notre promotion, je le répète, que cela est dangereux pour le croyant qui se trompe d'objectif. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes pour le servir, mais il va nous mettre à son école avant. Il va nous vider de nous-mêmes. Ce n'est pas d'apprendre, de connaître, de savoir, d'avoir la science infuse pour dire « Ah ben maintenant, voilà, je suis prêt, le Seigneur va se... » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le premier nettoyage qu'il va faire, c'est nettoyer notre cœur. Et puis une des choses qu'il va certainement entreprendre, une chose difficile, c'est qu'il va nous apprendre l'humilité et la modestie. On ne s'élève pas, on s'abaisse devant le Seigneur. Alors à ce moment-là, il y a toutes sortes de chances pour que nous puissions être utilisés par le Seigneur. Tout en le sachant, le choix de l'effacement et de la modestie, Judas le savait ça, parce que Judas a entendu Jésus parler des petits-enfants, et puis de toutes ces histoires où il nous parle finalement de mourir à soi-même. Alors, quand véritablement nous comprenons cette dimension, eh bien, c'est le surmoyen d'arriver jusqu'au bout. Parce que, faut-il encore rappeler ce texte de la Bible, c'est tout simple, c'est que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. Deux verbes, mais qui ont une destination différente. Parce qu'il y a justement, attaché à ces verbes, eh bien, deux directions différentes. Alors, la question est la suivante, frères et sœurs. Déçu, Judas, dans ses attentes surévaluées. Et si je m'arrête simplement à cela, je me dis, mais est-ce que nous, quelquefois, nous surévaluons pas par des rêves, par toutes sortes de choses? Eh bien, ce que nous sommes en tant que chrétiens. Judas n'a pas supporté de devoir se remettre en cause. Et je dis que tous ceux qui veulent prétendre à quelques fonctions dans l'Église, eh bien, vont passer par cette école. C'est une école, il faut le dire, de déception. Une école de souffrance. Alors, j'espère que je ne vais pas vous mettre le moral à bas ce matin. Mais c'est pourtant la réalité. Les grands hommes de Dieu y sont passés. Je pense à Moïse. Je pense à David. Je pense à Joseph. Tous, ils y sont passés. Et ils sont cités comme des hommes déception. Non pas qu'ils étaient sans péché, mais Dieu les a utilisés d'une manière admirable. Mais ils sont tous passés soit dans la prison, soit dans le désert, ou alors dans la fuite comme David. Ils ont fui, mais ils ont appris beaucoup. Alors, bien sûr, Judas n'a pas supporté cette école de se remettre en cause. Et par dépit, il a vendu Jésus. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit que l'estimation, c'était un prix misérable. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Lui qui nous a libérés s'est fait esclave, enfin on l'a fait esclave, et qui a surestimé sa personne, son avenir. Notre avenir, il appartient au Seigneur, il ne nous appartient pas, frères et sœurs. Notre personne, corps, âme et esprit, appartient aussi au Seigneur. Alors lui, il avait surévalué tout cela, naturellement. Et il n'a fait aucun cas de la vie de celui dont le sang et la valeur de la vie n'a pas de prix, qu'il a livré Jésus, tout simplement. Aujourd'hui, nous n'oublions pas que le Seigneur nous a sauvés par grâce. Et si nous sommes là, si nous sommes chrétiens, c'est un immense privilège, et nous le devons non pas à nous-mêmes, mais nous le devons à la grâce qui nous a été faite, et au sacrifice de Jésus. Tout simplement, c'est ça, Pâques. C'est pas autre chose, faut-il le rappeler? Parce que je pense que c'est peut-être le moment de le rappeler. La phrase qui suit est une phrase terrible de désespoir. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, alla. Trois petits points. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il alla. Aller ou faire, parce qu'on ne croit plus. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il ne croyait plus. Parce qu'il avait mis tellement les choses très haut, qu'à partir du moment où son rêve a été complètement évaporé, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me reste ? Mes frères et sœurs, il y a un grand danger aussi dans ce domaine. De surévaluer les choses, de se surévaluer soi-même, de spéculer sur notre avenir et peut-être même un avenir spirituel. Laissons faire le Seigneur et nous conduire. Je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi, mais vous ne croyez pas que c'est merveilleux ça ? Mais quand on regarde à la place du Seigneur, alors à ce moment-là, et qu'on veut voir ce que l'on veut voir, et qu'on dit au Seigneur, tu ne regardes pas, mais moi je regarde et je vois, alors à ce moment-là, ça c'est peut-être beaucoup plus douteux dans les résultats. Et alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, alla se prendre. Il n'y croyait plus, et c'est bien le drame de Judas, c'est qu'il ne croit plus. Tant que nous croirons, mes frères et mes sœurs, à la grâce de Dieu, nous resterons en vie. À partir du moment où nous ne croyons plus, nous mourrons. C'est le principe de la foi. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas que Dieu le condamne, je le dis à chaque fois. C'est que nous nous condamnons nous-mêmes par refus de croire. De croire à quoi ? De croire encore au pardon et à la grâce de Dieu. Et qu'il y a toujours un nouveau départ. Le Fils prodigue est là pour nous le dire. Jamais Judas aurait imaginé que son geste, que sa parole, que sa trahison aurait eu cette sinistre portée. Il connaissait l'innocence de Jésus, bien sûr qu'il la connaissait. On ne peut pas vivre 3 ans avec quelqu'un, dans l'intimité de quelqu'un, manger, partager avec lui, parler, recevoir sa grâce, sans ne pas le connaître. Il connaissait donc l'innocence de Jésus, et il supposait peut-être que la condamnation se bornerait à quelques peines légères. Puisqu'il était innocent, qu'est-ce que les autorités de Rome ou les autorités religieuses de Jérusalem pouvaient faire contre un homme qui était innocent ? Eh bien, on peut être innocent et être condamné. Et sans appel, quelquefois. On peut n'avoir rien fait, n'avoir rien dit, et être mis au pilori, mes frères et sœurs. Et ça, c'est pas seulement l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de tous les siècles. Alors il s'était dit, bon, ils vont le prendre, ils vont le flageller, ils vont lui dire, tu te calmes un petit peu, tu fais plus de miracles, tu te tais, tu ne dis plus rien. Autrement, bien, on va te sanctionner. Mais non, le problème, c'est que les résultats, c'était la mort. Et ça, Judas n'y avait pas pensé, qu'on pouvait mettre Jésus à mort. Je voudrais vous dire que tout ce que l'on fait par déception, et que vraiment Dieu nous fasse grâce, que nous ne fassions jamais les choses par dépit et déception. Parce que c'est la pire des choses. Il vaut mieux rien faire du tout. Il y a beaucoup de gens, dans leurs difficultés existentielles, peut-être parfois dans la vie de couple, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, et là, on y fait un peu plus attention parce que c'est la perte de l'emploi. Hein. Mais dans des choses où quelquefois nous pensons que nous ne prenons pas de risques, même quelquefois dans l'Église, ne faisons jamais les choses et n'agissons jamais par déception. C'est mortel. Et lui, il l'a fait par déception. Eh bien, tout cela a forcément des conséquences du même titre que nos dépits, et on ne peut jamais en mesurer l'étendue, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Et quand Judas, ce beau matin, est allé voir les autorités religieuses de Jérusalem, il leur a dit « Qu'est-ce que vous me donnez ? Moi, je vous livre Jésus. » Il n'avait pas pensé que ça irait beaucoup plus loin qu'il ne l'avait finalement espéré ou présagé. Judas a trahi. Et Judas a trahi par déception, parce qu'il a toléré le mal dans son cœur sans vouloir changer. Si nous avons du mal dans notre cœur, si nous sentons des mauvais sentiments, ne laissez pas le diable prendre le dessus sur vous. Ne croyez pas que vous allez être plus fort que le diable. Il est plus malin, d'ailleurs il s'appelle le malin. Ne laissez pas ça, mes frères et sœurs. Vous allez être malheureux. Parce qu'une chose que vous pensez, peut-être, c'est que vous allez toujours vous en tirer. Et que finalement, eh bien, vous avez raison de penser ça, vous avez raison de ressentir cela, vous avez raison de ceci et cela, mais il y en a un qui vous attire parce qu'il vous a sauvé. Et il vous a sauvé pour que vous soyez sauvé jusqu'au bout. Mais en mettant ces graines, cet ivraie dans votre cœur, à un moment ou un autre, il va laisser pousser, il va l'arroser par tout ce que nous entendons, toutes sortes de murmures, toutes sortes de choses, et à un moment donné, il viendra, il fera la moisson, et vous disparaîtrez avec l'ivraie. Hein. Et les grands perdants dans cette affaire, eh bien, ce sera vous. Et je dirais que le suicide moral de Judas a entraîné son suicide physique. On se pose quelquefois la question, pourquoi les gens se suicident-ils? C'est un drame. C'est une tragédie dans notre monde, le suicide. Mais est-ce que les gens qui portent atteinte à leur propre vie, qui se tuent, tu ne tueras pas, mais tu ne te tueras pas, est-ce qu'il n'y a pas déjà au préalable, et ça ne se voit pas, et les médecins ne le sauront jamais, n'y aurait-il pas un suicide moral déjà? Et que le suicide physique n'est que la dernière touche au processus de dégradation, et de ce processus de la mort. C'est ce qui s'est passé pour Judas. Souvenons-nous-en, suivre Jésus dans le secret espoir de glorification personnelle est un contresens à la foi, mes frères et sœurs. Je dis bien un contresens à la foi. Et l'image la plus patente que nous ayons, c'est l'histoire de Judas. Vouloir tout gagner est souvent synonyme de tout perdre. Laissez-moi vous dire quelques mots de Pierre maintenant. Ah, c'est plus positif, hein. L'un trahit, l'autre renie. Judas caractérise l'amour de soi-même. Pierre aimait authentiquement Jésus. Mais voilà, laissez-moi vous le dire, il l'aimait mal. Ouais. Est-ce que c'est possible d'aimer mal le Seigneur? Moi, je vais vous répondre oui. Il l'aimait mal, Pierre. Son reniement a pour origine ses engagements téméraires. C'est aussi, finalement, le fruit de l'orgueil chez Pierre. Parce que j'aime bien Pierre. Mais Pierre a le défaut de ses qualités. Et vous savez qu'on peut avoir le défaut de nos qualités. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux faces. Quand elles sont poussées à l'excès. Quand c'est poussé véritablement du mauvais côté. Et ça, c'est le cas de Pierre, parce que c'est un homme qui est très attachant, il est enthousiaste, Pierre. C'est un homme spontané, c'est un homme qui est entier. Il n'y a pas de dissimulation chez lui, on sait ce qu'il pense. Mais le problème, c'est qu'il va un peu trop vite en besogne, et il va se faire rattraper à un moment donné. Parce qu'il veut beaucoup, Pierre, et il entreprend toujours les choses sous l'influence du sentiment. Alors, deuxième leçon ce matin. Faites attention de ne jamais faire les choses par un sentimentalisme humain. Spirituel, oui. Authentique, dans la vérité, dans la justice, oui. Mais jamais un sentimentalisme humain, charnel. Religieux, si vous voulez, on peut mettre les mots dessus. Parce qu'il avait donné beaucoup plus de place au sentiment qu'à la raison. Parce qu'il y a une raison dans la vie de la foi. Jésus nous parle de sagesse, c'est celui qui manque de sagesse qui la demande à Dieu, et elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Dieu n'a jamais fait le rejet de l'intelligence, il nous a donné une intelligence, c'est pour que nous en servions. Et s'il y a cette alliance entre le sentiment que nous ressentons et la raison, on va garder l'équilibre naturellement. Et vous savez, les sentiments peuvent être sublimes, ils peuvent être sublimés, ils peuvent être merveilleux, magnifiques. Mais ils peuvent être terribles, parce que j'ai toujours remarqué qu'un sentimental, quand il se fâche, il est terrible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était blessé à l'intérieur. Parce qu'il a été meurtri à l'intérieur, et quelquefois la vengeance et la position qu'il prend est une position qui est radicale. Et ça nous amène à l'orgueil à un moment donné. Vous savez, il y a cette parole dans le livre de Job que nous avions étudié il y a quelque temps. Il est dit: ne te livre pas au mal parce que la souffrance t'y prédispose. Mes frères et mes sœurs qui souffraient, d'une manière ou d'une autre, de frustration, de toutes sortes de choses, écoutez bien, c'est la parole de Dieu. Ne te livre pas au mal parce que la souffrance t'y prédispose. Et il y en a un qui nous attend au virage pour enflammer tout cela. Ce qu'il croit, Pierre, sincèrement, dans sa vocation spirituelle, au final n'est que charnel. Et il est convaincu qu'il est dans la note, il est convaincu qu'il a raison. Il est convaincu quand il dit à Jésus, mais ça ne t'arrivera pas. Et puis tu sais, j'irai jusqu'à la mort, je te donnerai ma vie, et ceci et cela. C'est que de la surenchère avec Pierre. Et il est sincère en cela. Mais le problème, c'est qu'il interprète ses sentiments, il met des paroles fortes, puisqu'elles sont écrites dans notre livre. Alors à ce moment-là, il en est tellement convaincu, mais il ne sait pas que finalement, il y a une transposition, ce n'est pas spirituel, mais c'est charnel. Et il ne le sait pas encore. Pierre est un homme qui compte beaucoup sur ses propres forces, sur ce qu'il croit savoir, mais qu'il ne sait pas. Alors, inévitablement, il ne manque pas de sombrer dans une succession de pièges inattendus. Et je dis bien des pièges inattendus. Je voudrais le répéter pour, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas mon frère et ma sœur qui est mon ennemi, mais mon ennemi, c'est le diable. On est d'accord ? Alors pourquoi s'en prendre à mon frère et à ma sœur ? Pourquoi lui en vouloir ? À ma femme ou à mon mari ? À ceci, à cela ? Là, nous sommes sur un faux problème. Nous sommes sur une fausse piste. Et Pierre, sans le savoir, va rencontrer sur son chemin, parce qu'il pense croire juste, mais il croit faux. Alors il va recevoir toutes sortes de pièges inattendus, par exemple. En apparence, il est sûr de lui, et en fait, il est partagé dans son cœur. Regardons bien les gens qui ont des assurances et des convictions affirmées, dites, proclamées, déclamées. Ils le déclament pourquoi ? Souvent, je ne veux pas faire une généralité, mais ils le déclament pour se donner de l'assurance à eux-mêmes. Et quelquefois, quand on va dans le détail, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus fragiles qu'ils ne le pensent. Qu'ils ne le pensent eux-mêmes et qu'ils ne le montrent aux autres. Regardez son attachement à Pierre, son amour-propre, sa peur des hommes. Pierre est un homme qui a peur des hommes. Il est capable d'affronter la tempête, il est capable de marcher sur l'eau, il est capable de monter sur la montagne. Il est capable de faire des choses extraordinaires, mais devant les autorités de Jérusalem, il dit non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi, hein, vous vous trompez, hein, moi je ne suis pas avec de ces gens-là. La peur des hommes, mais pourquoi avons-nous peur des hommes ? Vous savez que c'est une position qui humilie le Seigneur, quand nous avons peur des hommes. Et il dit ceci à Jésus, quand tous t'abandonneront, moi, je ne t'abandonnerai pas. La preuve, on va l'avoir. Sa négligence dans la prière. Il vint vers ses disciples, Jésus vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?» Et c'est dans ce texte-là que nous trouvons aussi cette parole où il est dit, « L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. » Troisième point de ces achoppements dans lesquels il va tomber, c'est son coup d'épée intempestif. Il nous est rappelé que Pierre, qui avait une épée, la tira et coupa l'oreille de... Comment il s'appelle ? Malchus ou Malchus ? Bon, ça va être un grand débat après le culte. On va savoir. Et puis il y a sa lâcheté aussi. Quatrième point. Il dira, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas Jésus. Et il a passé 3 ans avec lui. Vous vous rendez compte ? Et tout ça à cause de la peur des hommes ? À cause de ses prétentions, toutes sortes de choses ? Et nous voyons que les fautes s'enchaînent les unes aux autres. À l'ingratitude s'ajoute le mensonge, puis la dénégation. Après, il va proférer des imprécations et le faux servant. Et à ce stade, il est impossible de reculer. Son péché a tout empire sur lui. Et notre Pierre, il est ficelé. Il est comme Samson. Il ne peut plus se défaire de tout cela. Voyez, l'accumulation de choses. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs qui ont été descendus par le diable, mais qui n'ont pas voulu écouter. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire, ils avaient raison. Bon, ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez ? On est impuissants devant cela. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait des étapes dans leur vie. Et il y avait des avertissements de Dieu. Il y avait des choses. Le coq a chanté plusieurs fois. Il chantait tous les matins, peut-être. Mais non, ils avaient raison, ils avaient raison, ils avaient raison. Et aujourd'hui, ils ne sont plus au milieu de nous. C'est terrible. Je dis bien que nous pouvons pleurer sur ces gens-là parce que c'était des frères et des sœurs. Ils ne sont plus là parce que le diable a eu raison d'eux. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui les a évacués. Hein. Comme Pierre. Alors, ils étaient si sûrs d'eux. Pierre qui se croyait un rocher, Il s'aperçoit à ce moment-là qu'il n'est que de la boue, de la poussière, c'est-à-dire qu'il n'est rien du tout. Et parfois, il faut passer par ce genre d'épreuve, il faut passer par ce genre d'expérience, d'école divine, pour nous décanter de la présomption et de l'orgueil. Il faut être courageux pour affirmer ses convictions, haut et fort, tenir ferme, au risque de tout perdre, à l'heure de l'épreuve, parce que l'heure de l'épreuve, c'est aussi l'heure de la vérité. Et croyez bien qu'il arrivera un moment ou un autre dans notre vie où nous passerons à l'heure de la vérité. Ce ne sera peut-être pas le dernier moment, mais dans la vie, il y a des étapes comme ça, où je peux vous dire que là, vous êtes vraiment en réflexion. Où en suis-je par rapport à Jésus, par rapport à ma foi, l'authenticité? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Est-ce que véritablement je suis Seigneur par amour? Est-ce que je suis encore sur les bases de la grâce ou je marche encore par la foi, par la loi, pardon? La peur et la honte, quand il faut sortir du conformisme et du statu quo, ce sont des gens courageux qui peuvent le faire. Et on a besoin de la grâce de Dieu de dire « moi je ne suis pas d'accord ». Il y a des gens dans le monde qui le font, les grands noms que vous connaissez qui ont marqué l'histoire, ils sont peu. Mais moi le plus grand de tous c'est Jésus, qui était véritablement l'anticonformiste, le révolutionnaire, celui qui a mis en pièces finalement le statu quo et qui a donné un bon coup de pied dans la fourmilière. Et il a eu raison. Parce qu'autrement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous serions encore dans la gaine, finalement, de toutes ces choses qu'on appelle religieuses et qui nous empêchent de respirer et de vivre. C'est pour la vérité que nous avons été appelés et la vérité nous affranchira. On est saisi quand on voit un homme comme Pierre pleurer comme un enfant. Parce qu'il pleure réellement. Et c'est pas, excusez-moi, c'est pas des larmes de crocodile. Je ne sais pas si ça pleure un crocodile. Mais toujours est-il qu'il pleure réellement. Et il suffit quelquefois de peu de choses pour réveiller une conscience et faire jaillir des larmes de repentance. Parce que ça, c'est le but ultime que Dieu veut avec ses enfants. Nous repentir, on s'est repenti une première fois, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'y revenir. Et le Seigneur nous conduira. Et vous savez comment Dieu s'est servi pour l'amener à pleurer? Un coq qui chante. Ouais. On n'entend plus beaucoup des coqs, On leur a coupé leur... Ils sont plus que piqués sur les toits des églises, mais ils ne chantent plus. Oh, il y aurait une belle histoire à raconter là-dessus, mais enfin bon, ça sera pour une autre fois. Un coq qui chante, mais il n'y a pas qu'un cœur qui chante, il y a un regard qui brûle. Jésus regarda Pierre, il lui a rien dit, mais un regard ça suffit. Quel regard qui me transperce, quel regard de pureté, mais un regard dans lequel je discerne qu'il n'y a pas de condamnation. Mais qu'il y a une parole qui m'appelle et qui me dit « Reviens vers moi. Reviens vers moi. Il est encore temps. Va pas plus loin. Ne fais pas comme Judas, ne fais pas comme Pierre. » Un regard que Pierre, finalement, c'est ce qui va l'empêcher de tomber dans le désespoir, le regard de Jésus. Dans son genre, le péché de Pierre est aussi monstrueux que celui de Judas. C'est pareil, on ne va pas faire de différence. Alors d'où vient que le premier est mort, de n'avoir pu surmonter, et que le second ait un ressaisissement de foi, et il y a trouvé l'occasion d'un nouveau départ? Je vais bientôt terminer. Oui, l'un a été perdu à jamais. L'autre, malgré la chute, malgré son reniement, malgré ce qu'il a fait et qui était d'égale valeur en gravité que le précédent, l'un a été perdu, l'autre a été sauvé. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La clé et la réponse résident dans l'attitude de chacun face à la faute. Judas se repentit en disant, vous avez remarqué, il s'est repenti, Il se repentit en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, il jeta les pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pierre, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre et se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit, étant sorti, il pleura amèrement. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous donne sa grâce lorsque nous commettons des fautes. Qui ne commet pas de fautes? Quel regard, quel chant peut nous ramener à regarder vers le Seigneur? Judas regrette, il confesse sa faute, fait le nécessaire pour réparer puisqu'il jette les pièces, mais Sa repentance n'a rien de la vraie repentance qui porte sur un changement de cœur. Son remords exprime un regret plein d'angoisse à la vue des conséquences d'une mauvaise action. Et il se dit, maintenant, il faut que j'en finisse, je veux mourir. Le principal manque à Judas, c'est la foi dans le pardon. Mes frères et sœurs, Dieu nous pardonne, Dieu nous pardonnera encore si nous nous repentons. Et il faut y croire à ce pardon. Et si vous voulez être au bénéfice du pardon, il faut pardonner aussi aux autres. Parce qu'il n'y aura pas de pardon. Pas possible. Le désespoir de l'incrédulité le pousse au crime sur soi-même, c'est-à-dire le suicide. Pierre, c'est juste le contraire qui se produit. C'est intéressant de le prendre en considération. Ses larmes sont l'expression d'un regret profond d'avoir offensé Dieu et qui porte irrésistiblement à désirer un changement de cœur, un changement de mentalité et un changement de vie. Seigneur, donne-nous un cœur pur. Crée en moi un esprit bien disposé, Seigneur. C'est ça. Il est l'image du pécheur qui croit au pardon possible et au relèvement du pécheur. Nous prions pour les frères et les sœurs qui se trompent, les frères et les sœurs qui, là, sont en dérive ou en déroute, parce que nous savons que c'est quelque chose de terrible. Et ce n'est pas leur disparition qui est souhaitable, c'est leur ressaisissement dans la vie spirituelle. Plus jamais de sa vie, Pierre ne reniera Jésus. Vous connaissez la suite, parce qu'il nous est parlé, il y a une suite, il n'y a plus de suite pour Judas, mais il y a une suite pour Jésus, pour Pierre. L'expérience de la repentance se décline toujours par un changement profond, durable et un changement de bonheur. Alors, voilà le message de Pâques. Pour les uns, c'est la vie. Et moi, je vais rester sur cette note. Pâques, c'est la vie. Pâques, c'est la grâce. Pâques, c'est la substitution à ma place pour que je ne sois pas perdu. Judas, Pierre, tous, nous avons crucifié Jésus. Vous êtes d'accord? On n'était pas là, mais on l'a crucifié quand même. Hein. Mais par la foi, je vais m'élever au-dessus de ma faute, au-dessus de mes fautes, pour croire que c'est à cause d'elle que perdu, je suis sauvé et je puis vivre au lieu de mourir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous donne sa grâce. Ça, c'est l'évangile dans lequel je crois. C'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile qui sauve. Nous allons prier maintenant. Je vais demander à Michel, si tu veux lever ta voix, et demander à Dieu qu'il bénisse l'Église et qu'il nous donne véritablement, malgré toutes nos imperfections, d'avoir la foi de Pierre. Merci.